Oscar Wilde, Ballade de la geôle de Reading. Il n'avait plus sa tunique écarlate, car le sang et le vin sont rouges. Et sur ses mains, il y avait du sang et du vin quand on le trouva avec la morte. La pauvre femme morte qu'il aimait et qu'il avait tuée dans son lit. Il allait parmi les prévenus, en un costume d'un gris râpé, sur sa tête une casquette de cricket. Son pas semblait léger et gai. Mais jamais je ne vis un homme regarder si intensément le jour. Jamais je ne vis un homme regarder avec un œil aussi intense cette petite tente de bleu que les prisonniers appellent le ciel. Et chaque nuage qui voguait et passait avec une voilure d'argent. J'allais, avec d'autres âmes en peine, dans un autre préau, et je me demandais si cet homme avait commis beaucoup ou peu, quand une voix derrière moi murmura tout bas « Celui-là sera pendu. » Ah, Christ, les murs mêmes de la prison soudainement semblèrent chanceler. Et le ciel au-dessus de ma tête devint comme un casque d'acier cuisant. Et bien qu'aussi je fusse une âme en peine, ma peine, je ne pouvais la sentir. Je sus seulement quelle pensée pour chasser hâtait son pas, et pourquoi il regardait la fastidieuse clarté du jour d'un œil aussi intense. L'homme avait tué ce qu'il aimait, et pour cela, il devait mourir. Pourtant, chaque homme tue ce qu'il aime, et que chacun le sache. Les uns le font avec un regard de haine, d'autres avec des paroles caressantes, le lâche avec un baiser. L'homme brave avec une épée. Les uns tuent leur amour quand ils sont jeunes, les autres quand ils sont vieux. Certains l'étranglent avec les mains du désir, d'autres avec les mains de l'or. Les meilleurs se servent d'un couteau, car sitôt les morts se refroidissent. On aime trop peu, ou on aime trop longtemps. On vend l'amour, ou on l'achète. Quelquefois, on commet son forfait avec maintes larmes, et quelquefois, sans un soupir. Car chacun de nous tue ce qu'il aime. Pourtant, chacun n'a pas à en mourir. Il ne meurt pas une mort infamante, un jour de sombre disgrâce. Il n'a pas autour du cou le nœud coulant, ni le masque sur sa face. Il ne sent pas à travers le plancher ses pieds tomber dans le vide. Il ne demeure pas avec des hommes silencieux, qui l'épient jour et nuit, qui l'épient quand il voudrait pleurer ou quand il essaie de prier. Qu'il épie de peur que lui-même ne dérobe à la prison sa proie. Il ne s'éveille pas à l'aube pour voir d'épouvantantes figures attroupées dans sa cellule. Le chapelain qui tremble enrobé de blanc. Le shérif sévère avec componction. Et le gouverneur tout en noir cérémonieux, avec une face jaune de jugement dernier. il ne se lève pas en une hâte pitoyable pour revêtir ses habits de condamné. Tandis que le docteur à la bouche grossière le couvre des yeux et prend note de chaque geste grotesque et de chaque contraction nerveuse. En maniant une montre dont les faibles tic-tac sont comme les coups sourds d'un horrible marteau. Il ne connaît pas cette soif écœurante qui sable la gorge avant que le bourreau, avec ses gants de gros cuir, ne se glisse par la porte à bourrelet et vous ligote avec trois lanières afin que votre gorge n'ait plus jamais soif. Il ne s'incline pas pour écouter la psalmodie de l'office des morts. Et, tandis que la terreur de son âme lui assure qu'il n'est pas mort, il ne croise pas son propre cercueil en entrant sous l'affreux hangar. Il ne jette pas un dernier regard sur le ciel à travers un petit toit de verre. Il ne prie pas avec des lèvres d'argile que son agonie passe. Et il ne sent pas sur sa joue frissonnante le baiser de Caïphe. Pendant 6 semaines, notre soldat fit sa promenade dans la cour en son costume d'un gris râpé, sur sa tête sa casquette de cricket, et son pas semblait léger et gai. Mais jamais je n'avais vu un homme fixer aussi intensément le jour. Jamais je ne vis un homme regarder avec un œil aussi intense vers cette petite tente de bleu que les prisonniers nomment le ciel, et vers chacun des nuages errants qui traînaient sa toison enchevêtrée. Il ne tordait pas ses mains, comme font ces hommes insensés qui osent essayer de faire vivre l'espérance, cet enfant maudit dans le caveau noir du désespoir. Il ne regardait que le soleil et buvait l'air du matin. Il ne tordait ses mains ni ne pleurait, et pas même se chagrinait. Mais il buvait l'air, comme s'il avait contenu quelque vertu anodine. À pleine bouche, il buvait le soleil, comme si c'eût été du vin. Et les autres âmes en peine, et moi, qui nous promenions dans l'autre préau, oubliâmes si nous-mêmes avions commis beaucoup ou peu de choses. Et nous observions avec un regard de morne étonnement l'homme qui devait être pendu. Et c'était étrange de le voir passer avec une démarche si légère et si gaie. Et c'était étrange de le voir fixer si intensément le jour. Et c'était étrange de penser qu'il avait une telle dette à payer. Car le chêne et l'orme ont un feuillage agréable qui jaillit au moment du printemps. Mais hideux à voir est l'arbre du gibet, avec sa racine mordue par les vipères. Et, vert ou desséché, un homme doit mourir avant qu'il porte son fruit. La place la plus haute est ce siège de grâce vers lequel tendent tous les efforts du monde. Mais qui voudrait se trouver avec une cravate de chanvre, haut sur un échafaud, et à travers le collier du meurtrier, jeter son dernier regard vers le ciel. Il est doux de danser au son des violons quand l'amour et la vie sont propices. Danser au son des flûtes et des luttes est délicat et rare. Mais il n'est guère doux de danser en l'air d'un pied agile. Ainsi, avec des yeux curieux et d'affolantes suppositions, nous l'observions jour par jour, et nous nous demandions si chacun de nous ne finirait pas de cette même manière, car nul ne peut dire jusqu'à quel rouge enfer son âme aveugle peut s'égarer. Enfin, l'homme mort ne se promena plus avec les prévenus. Et je sus qu'il se tenait debout dans l'horrible boîte noire où comparaissent les accusés, et que jamais plus dans ce monde suave du Seigneur je ne verrai sa face. Comme deux vaisseaux en péril qui passent dans la tourmente, nous nous sommes croisés en route, mais nous n'avons fait aucun signe. Nous n'avons dit le moindre mot. Nous n'avions aucun mot à nous dire, car nous ne nous sommes pas rencontrés dans la nuit sainte, mais dans le jour honteux. Un mur de prison nous entourait tous deux. Deux déshérités nous étions. Le monde nous avait rejetés de son cœur, et Dieu hors de sa sollicitude. Et l'embûche de fer qui attend le péché nous avait attrapés dans son piège. Dans la cour des endettés, les pavés sont rudes et les murs suintants sont élevés. Et c'était là qu'il prenait l'air, sous le soleil plombant. Et de chaque côté, un gardien marchait, de crainte que l'homme ne mourût. Ou bien, il s'asseyait avec ceux qui épiaient son angoisse nuit et jour, qui l'épiaient quand il se levait, pour pleurer, ou qu'il se courbait pour prier, qu'il épiait de peur que lui-même ne dérobât à leur échafaud sa proie. Le gouverneur était fort sur les articles du règlement. Le docteur disait que la mort n'est qu'un fait scientifique. Et deux fois par jour, le chapelain venait et laissait un petit traité. Et deux fois par jour, il fumait sa pipe et buvait son pot de bière. Son âme était résolue. Et en aucun autre endroit, la crainte ne s'y pouvait cacher. Il disait souvent qu'il était content que les mains du bourreau fussent proches. Mais pourquoi il disait une aussi étrange chose, aucun gardien n'osait le lui demander. Car celui auquel est donné comme tâche le sort de gardien doit mettre un verrou à ses lèvres et faire de sa figure un masque. Car autrement il pourrait être ému et qu'aurait à faire la pitié humaine enfermée dans l'antre des meurtriers. Quelle parole de grâce en un tel endroit pourrait secourir l'âme d'un frère? Avec une démarche lourde et balancée tout autour du préau, nous exécutions la parade des fous. Que nous importait? Nous savions être la brigade du diable, et têtes rases et pieds de plomb font une joyeuse mascarade. Nous déchirions brin à brin la corde goudronnée avec nos ongles usés et sanglants. Nous frottions les portes et lavions les planchers et nettoyions les barreaux luisants. Et par groupe, nous savonnions les boiseries en heurtant bruyamment les seaux. On cousait les sacs et on cassait les pierres et on tournait la drille poussiéreuse. On heurtait les gamelles et on braillait les hymnes et on suait sur le moulin. Mais dans le cœur de chacun, la terreur était cachée, tranquille. Si tranquille elle était, que chaque jour se traînait comme une vague embarrassée d'herbe. Et nous oubliâmes l'âpre destin qui attend la dupe et le coquin, jusqu'à ce qu'une fois, en revenant de quelque corvée, nous passâmes auprès d'une tombe ouverte. Avec une bouche béante, le trou jaune bâillait pour une pâture vivante. La boue même réclamait du sang auprès ou d'asphalte altéré. Et nous sûmes qu'avant l'aube blondissante, l'un de nous se balancerait au gibet. Tout droit nous rentrâmes, l'âme attentive à la mort, à l'épouvante et au destin. Le bourreau avec son petit sac passa, traînant les pieds dans les ténèbres, et chaque prisonnier tremblait en se glissant dans sa tombe numérotée. Cette nuit-là, les corridors vides furent pleins de formes effrayantes, et du haut en bas de la ville de fer, on sentait des pas furtifs qu'on ne pouvait entendre, et à travers les barreaux qui cachent les étoiles, des faces blanches semblaient regarder curieusement. Il reposait, comme quelqu'un qui dort et rêve, sur l'herbe douce d'une prairie. Les gardiens l'examinaient comme il dormait, et ne pouvaient pas comprendre comment on peut dormir d'un sommeil aussi tranquille, avec le bourreau à portée de la main. Mais il n'y a pas de sommeil quand ceux-là doivent pleurer, qui jamais encore n'ont versé de larmes. Aussi, nous, les dupes, les frauduleux, les coquins, fîmes cette interminable veillée, et à travers chaque cerveau, sur ses mains de douleur, la peine d'un autre se glissa en rampant. Hélas, c'est une effrayante chose d'éprouver le forfait d'un autre, car, droit à l'âme, le glaive du mal nous pénétrait jusqu'à sa garde empoisonnée. Et comme du plomb fondu furent les larmes que nous répandîmes pour le sang que nous n'avions pas versé. Les gardiens, avec leurs chaussures de feutre, glissaient devant chaque porte cadenassée. Par les Judas, ils examinaient et ils voyaient, avec des yeux d'étonnement et de crainte, des formes grises sur le sol. Et ils se demandaient pourquoi ceux-là s'agenouillaient pour prier, qui jamais encore n'avaient prié. Pendant la nuit entière, agenouillés, nous priâmes, déments, menant le deuil d'un cadavre. Les plumes agitées de minuit étaient comme les panaches d'un char mortuaire, et comme un vin aigre sur une éponge était la saveur du remords. Le coq gris chanta, le coq rouge chanta, mais jamais ne vint le jour. Et des formes tortueuses de terreur se blottirent dans les coins où nous gisions. Et chaque esprit malin qui s'ébat dans les ténèbres semblait folâtré devant nous. Il glissait et passait, il glissait, rapide, comme des passants dans la brume. Ils imitaient la lune en un rigodon de figures et de contorsions délicates, et avec des pas cérémonieux et des grâces odieuses, les fantômes arrivaient à leur rendez-vous. Avec des grimaces et des drôleries, nous les vîmes passer, frêles ombres, la main dans la main, à la ronde, en une cohue fantomale, ils dansèrent une sarabande. Et les damnés grotesques faisaient des arabesques, comme le vent sur le sable. Avec des pirouettes de marionnettes, ils dansaient légèrement sur les pointes. Mais avec les flûtes de la peur, ils emplissaient l'oreille en conduisant leur affreuse mascarade. Et bruyamment ils chantaient, et longuement ils chantaient, car ils chantaient pour éveiller le mort. « Oh oh !» criaient-ils, « le monde est vaste, mais les membres entravés vont en trébuchant, et une fois ou deux fois jeter les dés est un jeu distingué et comme il faut, mais il ne gagne pas. Celui qui joue avec le péché dans la secrète maison de la honte. Ils n'étaient nullement formes aériennes, ces êtres grotesques qui gambadaient avec une telle gaieté, Pour ceux-là dont les vies étaient retenues, enchaînées, et dont les pieds ne pouvaient aller librement. Ah, plaie du Christ, ils étaient bien vivants et terribles à voir. À la ronde, ils valsaient et tourbillonnaient. Quelques-uns tournaient par couples minaudiers, avec des pas affectés de demi-vertu. Quelques-uns effleuraient les escaliers, et, avec de subtils sarcasmes et de caressantes œillades, chacun d'eux nous assistait dans nos prières. Le vent du matin commença à gémir, mais la nuit se continua. Sur son métier géant, le tissu des ténèbres glissa, jusqu'à ce que chaque fil fût tissé. Et tandis que nous prions, la peur nous gagnait de la justice du soleil. Le vent gémissant vint errer alentour des murs de la prison, jusqu'à ce que, comme une roue d'acier qui tourne, nous sentîmes les minutes nous pénétrer. Ô vent gémissant, qu'avions-nous fait pour avoir un tel veilleur? Enfin, je vis l'ombre des barreaux, comme un treillis de plomb façonné, se projeter sur le mur, blanchi à la chaux, qui faisait face à mon lit de planche. Et je sus que, quelque part dans le monde, l'aube terrible de Dieu était rouge. À 6 heures, chacun balaya sa cellule. À 7, tout était tranquille. Mais l'essor frémissant d'un vol puissant sembla remplir la prison. Car le Seigneur de mort, à la laine glacée, était entré pour tuer. Il ne passa pas en pourpre pompeuse, et il ne chevauchait pas un coursier d'une blancheur lunaire. 3 mètres de corde et une planche à coulisses. C'est là tout ce dont a besoin la potence. Ainsi, avec la corde d'opprobre, le héros vint faire son œuvre secrète. Nous étions comme des gens qui, dans un marécage d'immonde obscurité, avancent à tâtons. Nous n'osions pas soupirer une prière, ni donner carrière à notre angoisse. Quelque chose était mort en chacun de nous, et ce qui était mort, c'était l'espoir. Car la farouche justice de l'homme suit droit sa route, sans se permettre le moindre écart. Elle frappe le faible, elle frappe le fort, sa marche est implacable. Avec un talon de fer, elle écrase le fort, la monstrueuse parricide. Nous attendions le coup de 8 heures. Nos langues étaient épaisses et altérées. Car le coup de 8 heures est le coup du destin qui fait un homme maudit. Et le destin emploie un nœud bien coulant pour l'homme le meilleur et pour le pire. Nous n'avions autre chose à faire que d'attendre le signe à venir. Aussi, comme des choses de pierre, dans une vallée solitaire, nous étions assis, immobiles et muets. Mais le cœur de chacun battait fort et vite, comme un démon sur un tambour. D'un choc soudain, l'horloge de la prison ébranla l'air frémissant. Et de la geôle entière s'éleva un gémissement de désespoir impuissant, comme le cri qu'entendaient les marécages effrayés de quelque lépreux dans son repaire. Et ainsi que l'on voit les plus effroyables choses dans le cristal d'un rêve, nous vîmes la huileuse corde de chanvre accrochée à la poutre noircie, et nous entendîmes la prière que le collet du bourreau étrangla dans un grand cri. Et toute la douleur qui l'ébranla tellement qu'il poussa ce cri affreux, et son remords déchirant, et ses sueurs de sang, nul ne les connut si bien que moi. Car celui qui vit plus d'une vie doit mourir aussi plus d'une mort. Il n'y a pas d'office le jour où l'on pend un condamné. Le cœur du chapelain est bien trop malade, ou sa face bien trop blême, ou il y a écrit dans ses yeux ce que nul ne doit voir. Ainsi, ils nous gardèrent enfermés jusqu'après de midi. Et alors on sonna la cloche, et les gardiens, avec leurs clés cliquetantes, ouvrirent chaque cellule aux écoutes, et nous descendîmes pesamment l'escalier de fer, chacun hors de son enfer distinct. Dehors, au doux plein air de Dieu, nous allâmes, mais non à la façon accoutumée, car la face de celui-ci était blanche de peur, et la face de celui-là était grise. Et jamais je ne vis des hommes tristes regarder aussi intensément le jour. Jamais je ne vis des hommes tristes regarder avec un œil aussi intense cette petite tente de bleu que nous, prisonniers, appelions le ciel. Et chaque nuée indifférente qui passait en heureuse liberté. Mais il y en avait parmi nous tous qui marchaient la tête basse et savaient que si chacun avait eu son dû, ils auraient mérité de mourir. Lui n'avait tué qu'une chose qui vivait, tandis qu'ils avaient tué une chose morte. Car celui qui pêche une seconde fois éveille à la peine une âme morte et il la tire de son suaire taché, et la fait saigner à nouveau, et la fait saigner de larges gouttes de sang, et la fait saigner en vain. Comme des singes ou des clowns en monstrueux apparats, étoilés de flèches en dessins irréguliers, silencieusement nous allâmes tout autour de la cour d'asphalte glissant. Silencieusement, nous allions tout alentour et personne ne disait mot. Silencieusement, nous allions tout alentour et dans chaque cerveau creux, la mémoire de choses terribles s'engouffrait comme un vent terrible et l'horreur paradait devant chacun et la terreur rampait derrière. Les gardiens se pavanaient de ci, de là, gardant leur troupeau de brutes. Leurs uniformes étaient tout battants neufs, et c'était leur tenue des dimanches. Mais nous savions à quelle besogne ils avaient été par la chaux vive de leurs souliers. Car là où la tombe s'était ouverte toute grande, il n'y avait plus de tombe du tout. Seulement un peu de terre et de sable près du mur hideux de la prison. Et un petit tas de chaux ardente, afin que l'homme ait un suaire. Car il a un suaire, ce malheureux, tel que peu de gens peuvent en réclamer, bien au fond, en bas d'une cour de prison, nu pour plus grande honte. Il gît, avec des chaînes à chaque pied, enveloppé dans un drap de flammes. Et pendant tout le temps, la chaux ardente dévore sa chair et ses os. Elle ronge les os cassants pendant la nuit et la chair tendre pendant le jour. Elle mange la chair et les os tour à tour, mais elle ronge le cœur sans cesse. Pendant 3 longues années, ils ne sèmeront ni ne planteront là. Pendant 3 longues années, l'endroit maudit sera stérile et nu, et regardera le ciel étonné, avec un regard sans reproche. Il croit qu'un cœur de meurtrier corromprait chaque simple semence qu'il sème. Ce n'est pas vrai. La bienveillante terre de Dieu est plus généreuse que ne le savent les hommes. Et la rose rouge s'épanouirait plus rouge, et la rose blanche plus blanche. Hors de sa bouche, une rouge, rouge rose, hors de son cœur, une blanche. Car qui peut dire de quelle étrange façon Christ manifeste sa volonté depuis que le bâton sec que portait le pèlerin fleurit à la vue du grand pape. Mais ni la rose blanche de lait, ni la rouge ne peuvent fleurir dans l'air d'une prison. Tessons, cailloux, silex sont ce qu'il nous donne là. Car on sait que parfois les fleurs ont apaisé le désespoir de l'homme simple. Ainsi, jamais la rose rouge de vin, ni la blanche, pétale par pétale, ne tomberont sur ce peu de terre et de sable, auprès du mur hideux de la prison, pour dire aux hommes qui passent dans la cour que le Fils de Dieu mourut pour tous. Pourtant, bien que le hideux mur de la prison le cerne encore tout alentour, et qu'un esprit ne puisse vagabonder de nuit, qui de chaîne est lié, et qu'un esprit ne puisse que pleurer, qui gît en une terre aussi impie. Il est en paix, le misérable, en paix, ou le sera bientôt. Il n'y a rien là qui puisse l'affoler. Et la terreur ne s'y promène pas au plein jour, car la terre sans clarté dans laquelle il repose n'a ni soleil ni lune. Ils le pendirent, comme on pend une bête. Ils ne sonnèrent même pas un glas qui eût pu apporter quelque apaisement à son âme effrayée. Mais précipitamment ils l'emportèrent et le cachèrent dans un trou. Ils lui enlevèrent ses habits de toile et l'abandonnèrent aux mouches. Ils se moquèrent de sa gorge pourpre et enflée et de ses yeux purs et fixes, et avec de grands rires, ils entassèrent le linceul dans lequel leur condamné repose. Le chapelain ne s'agenouillerait pas au bord de cette tombe déshonorée et ne la marquerait pas de la croix bénie que le Christ pour les pécheurs donna, parce que l'homme était un de ceux que le Christ était descendu sauver. Cependant, tout est bien. Il n'a que franchi les bornes connues de la vie, et pour lui, des larmes étrangères rempliront l'urne depuis longtemps brisée de la pitié, car ses pleureurs seront les rejetés, et les rejetés, toujours, pleurent. Je ne sais si les lois ont raison ou si les lois ont tort. Tout ce que nous savons, nous, les captifs de la geôle, c'est que le mur est solide et que chaque journée est comme une année dont les jours sont longs. Mais ceci, je le sais, que toute loi que les hommes ont faite pour l'homme depuis qu'un homme le premier prit la vie de son frère et que le monde de l'affliction commença, toute loi disperse le bon grain et garde la balle avec le pire des vents. Ceci aussi je le sais, et combien sage, si chacun pouvait le savoir de même, que chaque prison que bâtissent les hommes est bâtie avec les briques de l'infamie et fermée de barreaux de peur que Christ ne voie comment les hommes mutilent leurs frères. Avec des barreaux, il défigure la lune gracieuse et ils aveuglent le bon soleil. Et ils font bien de cacher leur enfer, car il s'y passe des choses que ni fils de Dieu, ni fils de l'homme, jamais ne devraient voir. Les actions les plus viles, ainsi que des herbes empoisonnées, s'épanouissent dans l'air de la prison. C'est seulement ce qui est bon dans l'homme qui s'épuise et se flétrit là. La pâle angoisse veille à la lourde barrière, et le gardien est désespoir. Car ils affament le petit enfant terrifié, jusqu'à ce qu'il pleure jour et nuit. Et ils flagellent le faible, ils fouettent l'idiot et raillent les vieillards gris. Et certains deviennent fous, et tous deviennent pires, et nul ne peut dire un mot. Chaque étroite cellule que nous habitons est une infecte et sombre latrine, et la laine fétide de la mort vivante étouffe chaque lucarne grillée, et tout, sauf le désir, est réduit en poussière dans la machine humanité. L'eau saumâtre que nous buvons glisse avec un limon nauséabond, et le pain amer qu'ils pèsent avec soin est plein de craie et de chaud, et le sommeil jamais ne se couche, mais marche les yeux hagards, implorant le temps. Mais bien que la faim amaigrie et la soif livide, ainsi que la spique et la vipère combattent, on se soucie peu de la chair de la prison, car ce qui glace et tue entièrement, c'est que chaque pierre qu'on soulève pendant le jour devient votre cœur la nuit. Avec minuit toujours dans le cœur et le crépuscule dans la cellule, nous tournions la manivelle et nous effilochions la corde, chacun dans son enfer distinct, et le silence est plus redoutable que le son des cloches d'airain. Et jamais une voix humaine ne s'approche pour dire une douce parole, et l'œil qui examine à travers le Judas est impitoyable et dur, et de tous oubliés, nous pourrissons et pourrissons l'âme et le corps gâtés. Et ainsi, nous rouillons la chaîne de verre de la vie, avilis et seuls, et quelques-uns profèrent des malédictions et quelques autres pleurent, et certains ne font entendre le moindre gémissement. Mais les lois éternelles de Dieu sont indulgentes et brisent le cœur de pierre. Et chaque cœur humain qui se brise dans une cour ou cellule de prison est comme cette cassette brisée qui donna son trésor au Seigneur et remplit l'impure demeure du lépreux du parfum du nard le plus précieux. Ah, heureux ceux-là dont les cœurs peuvent se briser et gagner la paix du pardon. Comment l'homme pourrait-il autrement dresser son plan et purifier son âme du péché? Où, sinon dans un cœur brisé, le Seigneur Christ pourrait-il entrer? Et l'homme, à la gorge pourpre et enflée, et aux yeux purs et fixes, attend les saintes mains qui prirent le voleur au paradis, car le Seigneur ne méprise pas le cœur brisé et contrit. L'homme en rouge qui lit la loi lui accorda 3 semaines de vie, 3 petites semaines pour guérir son âme du désaccord de son âme et pour purifier de la moindre goutte de sang la main qui avait tenu le couteau. Et avec des larmes de sang, il purifia sa main, la main qui tint l'acier, car seul le sang peut effacer le sang, et seules les larmes peuvent guérir. Et la tache cramoisie qui était de Caïn devint de Christ le sceau blanc de neige. Dans la geôle de Reading, auprès de la ville, il est une tombe d'infamie. Et là, gît un misérable, dévoré par des dents de flamme, dans un linceul ardent il gît, et sa tombe n'a pas de nom. Et là, jusqu'à ce que Christ appelle les morts, qu'il repose en silence. Nul besoin de prodiguer les larmes insensées ou de pousser de haletants soupirs. L'homme avait tué ce qu'il aimait et c'est pour cela qu'il eut à mourir. Et chacun tue la chose qu'il aime, que tous entendent ceci. Les uns le font avec un regard de haine, d'autres avec des paroles caressantes, le lâche avec un baiser, l'homme brave avec une épée.